Radio TVB. L'émission sur la trame verte et bleue par le CPIE Forêt de Brocéliande. Bonjour et bienvenue pour cette troisième émission de Radio TVB, émission sur la trame verte et bleue proposée par le CPIE Forêt de Brocéliande. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'articulation entre trame verte et bleue d'une part, urbanisme et aménagement du territoire de l'autre. La trame verte et bleue doit être prise en compte dans les documents d'urbanisme tels que les plans locaux d'urbanisme, ou PLU, ou les schémas de cohérence territoriale, encore appelés SCOT. Et pour commencer cette émission, nous retrouvons Gwen qui va nous parler d'actualité autour de la biodiversité.
Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme, comme mon paquet de mouchard. Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi.
C'est l'actualité bleue.
Bonjour Gwen.
Bonjour Anne.
Comment ça va aujourd'hui ?
Bien, c'est pas la grande forme. Comme toujours, je suis pas porteuse de bonnes nouvelles. Les activités humaines ont modifié 50 à 70% de la surface de la planète. Et ces modifications impactent les déplacements animaux. Un programme de suivi a été mis en place sur 800 mammifères de 57 espèces différentes, allant des éléphants aux sangliers, en passant par les ours et les gazelles. Les résultats sont alarmants. Les mouvements des mammifères se sont vus réduits de moitié. En impactant les déplacements des animaux, nous agissons directement sur notre écosystème. Car ces animaux, en se déplaçant, permettent la conquête de nouveaux territoires, à la fois pour les animaux, mais aussi pour les végétaux.
Et du coup, est-ce que ces animaux changent leur mode de vie ?
Certaines espèces, oui. Le renard, par exemple, qui préfère faire les poubelles plutôt que de parcourir plusieurs kilomètres à la recherche de nourriture. Mais il s'expose alors à de nombreux dangers, et n'est sûrement pas le bienvenu en ville. Bon, assez de mauvaises nouvelles, je vais finir sur une note un peu plus joyeuse. En octobre dernier, les naturalistes ont pu enregistrer une grande noctule sur l'île d'Ouédic. Cette chauve-souris d'une envergure de 45 cm est la plus grande d'Europe. Cette grande noctule n'avait pas été observée en Bretagne depuis 1987. Observation un petit peu plus macabre cette fois-là, car un cadavre de mâle avait été retrouvé dans une salle de classe au Faouët. Cette espèce est rare et est principalement observée dans la région Nouvelle-Aquitaine. Mais sa présence en Bretagne peut être expliquée par les flux migratoires des oiseaux. En effet, cette chauve-souris se nourrit d'insectes, mais aussi de petits passereaux.
Et est-ce que cela veut dire qu'on va en voir plus en Bretagne ?
Pour l'instant, rien n'est sûr, car les scientifiques ne disposent pas assez d'informations sur le comportement de cette espèce.
Merci Gwenon, j'espère que tu reviendras avec d'autres bonnes nouvelles.
Je vais essayer d'en trouver.
La trame du mois. Durant la dernière émission, qui remonte un peu, j'en suis désolée, nous avons parlé du bocage et de son importance pour la trame verte et bleue. Le bocage est un élément du paysage principalement rural. Et on en a déjà parlé, la trame verte et bleue ne s'arrête pas à l'entrée des villes. Ainsi aujourd'hui, nous allons nous intéresser au lien entre trame verte et bleue et urbanisme ou aménagement. Quelle est la place de la trame verte et bleue dans nos villes et espaces urbanisés ? Comment la prendre en compte dans ces lieux ? Pour aborder ce sujet du mois, j'ai rencontré Benjamin Urien, responsable du service cadre de vie biodiversité à Morlaix-Communautés, et Tristan Le Baron, chef de projet planification aussi à Morlaix-Communautés. Et puis j'ai aussi rencontré Emmanuelle Scherrer-Martin, directrice des services techniques de la ville de Guerre. Ils ont répondu à mes questions pour vous éclairer sur la trame verte et bleue en milieu urbain, et je les en remercie.
Pour un peu de contexte, est-ce que vous pouvez me répondre à qu'est-ce que l'aménagement du territoire ?
Il y a pas mal de domaines dans l'aménagement du territoire. J'ai peut-être une petite déformation professionnelle, parce que je vais peut-être le voir du côté aménagement et urbanisme. Voilà, c'est une déformation, parce que l'aménagement, c'est pas que de l'urbanisme, c'est aussi la gestion du milieu agricole, c'est aussi la gestion du milieu naturel, des infrastructures, voilà. Alors si je réponds là, sur le coup, uniquement pour le volet urbanisme, et après je laisserai la parole à Benjamin pour traiter de l'aménagement côté naturel. Dans l'urbanisme, en fait, il y a plusieurs niveaux de traitement de l'aménagement. Le premier, Et là où je suis en fait spécialiste, c'est la planification et le foncier. C'est-à-dire qu'avant de lancer une opération d'urbanisme concrète, opérationnelle, les collectivités, les partenaires réfléchissent aux projets qu'ils veulent voir émerger sur le territoire. Projets politiques d'aménagement du territoire. Et là, c'est une matière en fait, qui est extrêmement transversale, pluridisciplinaire, puisque pour réfléchir au tout, on intègre autant de la géographie que de l'économie, que de l'urbanisme, de la sociologie, de l'écologie, voilà, hein, tout un ensemble. Et dans cette matière de planification, on produit un outil, souvent un PLU, donc un plan local d'urbanisme, à l'échelle communale ou à l'échelle intercommunale, comme ça se fait de plus en plus. Et d'ailleurs, ce sera dans les années à venir vraiment la norme, avoir une notion d'intercommunalité pour l'aménagement. Et cet outil, voilà, en planification, sert à développer le projet politique. La planification, ça rime avec prospective, c'est savoir quel est le projet d'aménagement pour les 5, 10, 15, voire 20 ans. Ça, c'est la première brique de l'aménagement. Et ensuite, on rentre plus dans le volet opérationnel, c'est-à-dire gestion du foncier, acheter du foncier pour mieux gérer son aménagement. Une fois que j'ai acheté le foncier, je réfléchis au projet urbain. Donc voilà, c'est-à-dire que là, je travaille avec des équipes d'urbanistes spécialisés de projets pour dessiner des aménagements sur les grands secteurs. Et ensuite, la dernière étape, c'est vraiment le suivi opérationnel. C'est-à-dire que là, on parle souvent de chargé d'opération qui travaille avec qui sont là, sur le coup, plutôt chefs d'orchestre en coordonnant archi, BTP et autres. Et là, eux, ils ont la chance de voir en fait les projets sortir de terre, là où nous, on s'arrête au plan.
Quelle est la place de la trame verte et bleue dans les documents d'urbanisme ?
Alors, la trame verte et bleue, maintenant, dans les documents d'urbanisme, c'est quelque chose qui a été réglementé dans les dernières lois. Donc, on a obligation déjà de la diagnostiquer, c'est-à-dire qu'on va intégrer cette trame verte dans nos documents d'urbanisme. Donc on peut détailler, hein, on va dire qu'il y a trois documents de référence. Il y a d'abord le schéma régional de cohérence et d'environnement qui est fait au niveau de la région, qui va définir les grandes trames vertes et bleues au niveau de la région, donc les grands fleuves, les grands bois et puis les liens qu'il peut y avoir entre eux. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Donc là, c'est plus à l'échelle d'un territoire un peu plus grand. Donc dans notre secteur, c'est au niveau du Pays de Ploërmel qui va regrouper Oust-Abrosseillande Communauté et la communauté de communes du Pays de Ploërmel, où ils vont redéfinir de nouveau la trame verte et bleue, plus dans le détail au niveau du territoire. Et ensuite, on arrive au niveau du PLU, le plan local d'urbanisme, où là, on est plus au niveau de la parcelle, on va aller plus dans le détail et on va déterminer plus précisément les haies ou les bois qu'on va pouvoir classer, mais également les zones humides, donc plus sur la trame bleue. Donc dans notre document d'urbanisme, nous, sur la ville de Guerre, on a défini un certain linéaire de haies qu'on estime comme à protéger. Donc les habitants qui possèdent ces haies n'ont pas le droit de faire tout et n'importe quoi dessus. Ils ont l'obligation de demander une autorisation d'urbaniste s'ils ont nécessité de la battre ou de faire des choses dessus. Et s'ils vont jusqu'à la battre, ils auront l'obligation de replanter à peu près l'existant. Et donc du coup, pour préserver ce maillage de haies au niveau du territoire et au niveau des zones humides, de la même manière, on a dû déterminer quelles étaient les zones humides au sein de notre commune et on les a cartographiées sur notre plan. Et là, de la même manière, les gens n'ont pas le droit de construire, par exemple, dans ces zones humides. On a tout un tas de réglementations qui sont spécifiques à ces zones pour pouvoir à la fois préserver l'habitat des espèces naturelles, mais aussi lutter contre les risques d'inondation et éviter aux gens de construire sur des espaces qui potentiellement peuvent être dangereux pour eux à long terme.
Et donc vous vous êtes concentré que sur les haies et les zones humides, vous n'avez pas pris en compte les autres types de milieux, type mares, étangs
Alors dans les zones humides, on a déterminé les mares, les étangs, les rivières et puis aussi le bassin versant. Les risques d'inondation ont été pris en compte, donc quand on détermine une zone humide, on va avoir la rivière en elle-même et un certain linéaire autour où potentiellement on a un risque de débordement de la rivière ou une zone qu'on considère comme d'intérêt écologique et où on va préserver cette zone dans le cadre de notre programme. L'autre chose aussi qu'on peut voir dans les plus, c'est que maintenant dans les nouveaux plans locaux d'urbanisme, on a l'obligation de lutter contre l'étalement urbain. Donc c'est une autre manière aussi de prendre en compte la trame verte et bleue puisqu'on va essayer de concentrer l'habitat plutôt dans les zones déjà urbanisées en favorisant la possibilité aux gens de densifier en zone urbaine. Et maintenant, dans les PLU, on va limiter beaucoup l'urbanisation en campagne pour éviter le maillage et avoir plein de petits hameaux qui se développent comme on a eu l'habitude de faire en Bretagne. Donc on reconcentre l'habitat là où il existe déjà pour essayer d'éviter d'étaler en périurbain la ville.
Après, en ce qui concerne la prise en compte de la trame verte et bleue dans l'aménagement, au moins à l'échelle de l'agglo, là on est dans l'élaboration du PLUI. Alors c'est pas forcément une démarche volontariste, mais aussi réglementaire. Il y a eu un diagnostic qui a été fait pour la définition des réservoirs biologiques, des réserves de biodiversité, des corridors écologiques, des espaces relais. Et ça, ce titre que c'est pris en compte dans l'aménagement en général. Et l'objectif, c'est que le vivant en général puisse se déplacer, se nourrir, se reposer, etc. etc. À ce stade, c'est la première fois au moins ici qu'on intègre le concept trame verte et bleue à l'échelle du territoire.
L'objectif de la planification, mais l'objectif général de la collectivité à travers l'outil PLU intercommunal, c'est de mettre en cohérence l'aménagement, ou donc les projets d'habitation, ou les projets économiques, avec la nécessaire préservation des secteurs naturels, remarquables ou ordinaires, donc la trame verte et bleue. C'est ça le travail en fait de la planification, c'est de mettre en cohérence et s'assurer que tout fonctionne bien et que chaque projet politique en matière d'aménagement soit bien maintenu et capable d'être mis en œuvre.
Et c'est vrai que ce qui est un peu nouveau, au moins dans l'esprit de nos élus, c'est de considérer les trames vertes et bleues quasiment au même titre que les infrastructures routières. Mmh. Alors, quelque chose de nouveau, intégrer tout ça, mais comme tu disais, mettre en cohérence, c'est ça l'objet.
Quels sont les avantages à retrouver la nature en ville et dans les milieux urbains de façon générale, que ce soit pour la biodiversité, mais aussi pour l'homme?
La trame verte, mais la trame verte ou bleue d'ailleurs, ouais. Donc les espaces verts, les zones humides, entre guillemets, dans toute leur intégralité, c'est important pour la biodiversité, mais c'est aussi important pour l'être humain.
Ouais.
Parce qu'imaginer demain une ville sans aucun espace vert,
ouais,
ou sans aucune zone humide, vous n'aurez plus de lieu pour vous balader, vous détendre avec les enfants. C'est plus agréable de se balader dans une rue avec des fleurs, des arbres, et des jardins qui sont joliment aménagés derrière, que dans une ville qui est complètement minérale et où il n'y a plus rien du tout. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres outils qui existent. Donc nous, notamment, on travaille sur un plan de déplacement communal, donc plus pour la mobilité des gens, à pied, en vélo, en voiture. Mais dans ce plan de déplacement, on a intégré le fait que c'était plus agréable du coup de se balader à pied quand on a des jolies choses à voir. Et ça, l'espace vert, il sert aussi à mettre en valeur le patrimoine bâti, donc il a aussi cet aspect de favoriser un peu l'image de la ville et rendre plus attractif le territoire. Donc l'espace vert n'a pas une utilité que pour l'espèce animale,
ouais,
ou végétale qui habite dedans. Nous, en tant qu'être humain, on a aussi tout intérêt à essayer de faire en sorte que la biodiversité soit la plus grande.
L'intérêt, c'est que les connexions ou les réservoirs de biodiversité identifiés à l'échelle de l'agglo puissent connecter localement à des coulées vertes en ville, ou même dans la pratique de gestion des espaces verts, on travaille beaucoup aussi avec les communes.
Mm-hmm.
Donc là, on a l'aspect plutôt naturel aussi, puis il y a l'aspect social là-dedans aussi. On se rend compte que en gérant des espaces verts de manière nouvelle, notamment par le pâturage, on donne une nouvelle vocation à des zones qui n'en avaient pas en fait.
C'est vrai que sur le territoire, on étudie plutôt, comme le disait Benjamin, la trame verte et bleue à l'extérieur des agglomérations et des villages, ce qui n'empêche que la trame verte et bleue, elle, sera prise en compte dans les futurs projets d'extension. C'est bien l'idée, hein, des corridors écologiques à préserver. Donc c'est bien l'idée, effectivement, de préserver ces corridors et cette trame verte et bleue dans les futures zones. Et sur la trame verte et bleue urbaine, c'est quelque chose qu'on aurait voulu développer sur Morlaix Communauté, mais je crois qu'il faut y aller progressivement. Déjà, comme tu le disais, c'est déjà une première étape pour le territoire de monter sa trame verte et bleue à l'échelle communautaire. D'autres territoires y ont pensé, si je peux me permettre à citer Brest Métropole, où effectivement, ça c'est un sujet qui a été mis sur la table. Autant donc, en intégrant la biodiversité urbaine, ordinaire et tous les apports que ça va avoir, mais j'insiste aussi sur le côté social, comme tu le disais, extrêmement important, créer en fait des cheminements doux, Ça crée de l'espace vert, mmh. donc un espace de sérénité mmh. Pour les personnes vivant en ville. Et on retrouve parfois avec ceci en fait des projets de boucles ou de parcours qu'on peut croiser même avec des parcours d'interprétation ouais. sur le patrimoine. Mmh. C'est là que ça devient super intéressant au niveau de la trame verte urbaine, c'est qu'on peut vite croiser tout ça avec du patrimonial, du social, ouais. du déplacement. Et encore une fois, c'est vraiment ce qui est intéressant et ce qui doit nécessairement être fait dans l'aménagement, c'est complètement la transversalité. Sans quoi, ça marche pas et on perd le sens vraiment de la matière.
Et donc, comment les ZAC et les zones résidentielles, elles peuvent contribuer à la trame verte et bleue ?
Alors, on parle de nouvel aménagement, hein. Ben, c'est en intégrant des notions de continuité, de préconisation quant à la création, la composition des espaces verts, des choses simples à penser, voilà, pour que la faune puisse circuler. Maintenant, alors, c'est des choses auxquelles on ne pensait pas jusqu'à très récemment. Mmh. Effectivement, c'est des principes qui seront intégrés dans la création de nouveaux espaces. Et d'ailleurs, ça s'illustre dans le fait où moi je travaille avec le bureau d'études Morlaix Communauté. Eux, quand ils créent des nouveaux espaces, alors c'est plutôt tout ce qui est zone d'activité économique. Ben, avant la création, on regarde ce qu'il y a à faire en matière d'espace vert et puis éventuellement de continuité.
Mais c'est vrai que ça peut se traduire en fait aussi bien par des aménagements d'ampleur ou de préservation, comme tu disais, avec préservant une coulée verte ou un cheminement de biodiversité. Ou alors une échelle plus petite sur la préservation du bocage. Et après, ça peut aller vraiment dans le détail. Alors, ça va peut-être paraître anecdotique, mais ce serait éviter de clôturer les parcelles pour que la mm-hmm. petite faune puisse simplement circuler. Mm-hmm. Donc, en fait, ça part de grands principes d'aménagement avec éventuellement de la réserve foncière pour préserver de l'espace vert naturel. À du détail d'aménagement comme de la clôture.
Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de sensibilisation à faire à ce sujet encore.
Et du coup, on parle d'aménagement, mais alors quels aménagements impactent la fragmentation et les continuités écologiques, que ce soit positivement ou négativement ?
Alors voilà, on ne va pas regarder dans le rétro, mais après maintenant c'est tout ce qui est infrastructure routière, ferroviaire, mais bon, voilà, on n'est plus dans la création. Là. Donc clairement à l'échelle de notre territoire, quoi. Maintenant sur les grands et nouveaux aménagements, bien sûr que c'est intégré. Infrastructure routière, tout ce qui est urbain aussi, infrastructure ferroviaire, etc., etc.
Et du coup, est-ce que c'est possible de faire des aménagements qui impactent positivement, puisque là on parle d'infrastructure routière, ouais. Du coup c'est plutôt un impact négatif.
Oui. Alors aménager l'existence, c'est très cher et super compliqué.
Mm-hmm. Sur des nouveaux aménagements, comment on peut contrebalancer un peu?
Ah bah c'est intégré hein, dans les grands projets d'autoroute. Maintenant, c'est intégré systématiquement les passages à grande faune. Comme il y a 15 ans ou 20 ans, on pensait pas au cheminement doux, piéton. Maintenant, c'est intégré. Voilà, c'est une nouvelle démarche. Quoi.
D'accord.
L'impact positif en creux de l'aménagement, comme vous disiez, de l'aménagement, c'est pas que artificialiser les espaces naturels ou agricoles. Mm-hmm. L'aménagement, c'est aussi penser à préserver. Et justement, l'impact positif de l'intégration de la trame verte et bleue dans l'aménagement, c'est simplement préserver, consommer moins d'espace, artificialiser, imperméabiliser moins de zones naturelles aux zones agricoles. Mm-hmm. Donc voilà, en creux, quoi.
Est-ce que la trame verte urbaine, elle va s'arrêter aux espaces publics ? Dans quelle mesure les espaces verts et naturels privés ils peuvent contribuer à cette trame ?
Quand on est sur une maîtrise foncière publique, bah, entre guillemets, on fait un peu ce qu'on veut, enfin, on se conserve, on fait ce qu'on veut. Maintenant, sur les espaces privés, au-delà de préconisations, de chartes, voire d'aides, de financement, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais après, pour tout ce qui est trame verte et bleue, sur du domaine privé, à part l'incitation, la sensibilisation, on partira sur des démarches volontaristes. Hein.
D'accord.
Alors, on parle des privés, que ce soit les particuliers ou des entreprises. Hein. Donc, après, ça peut être lors de la création de zones, de chartes, alors c'est peut-être pas le mot, voilà, pour respecter certains principes d'aménagement, des choses comme ça. Voilà, on peut accompagner, inciter, sensibiliser, c'est la première étape. Hein.
Oui.
Sachant que sur ces aspects-là, bah, effectivement, nous, on s'appuie sur les structures compétentes, à savoir, au moins pour en citer une sur le territoire, le CPI de la base du Douro.
Et après, pour le particulier, C'est vrai que l'action du particulier, bon, ça va paraître anecdotique, l'aménagement, l'intégration de la trame vertée bleue, la préservation de l'espace naturel doit être anticipé dans les opérations d'aménagement, sinon l'impact est négligeable. Mais en revanche, le particulier a du poids quand il vote ou quand il rencontre ses élus pour signifier que pour eux, ça a de l'importance de préserver les espaces naturels. Et c'est en influençant ou en demandant à nos élus de prendre ça en compte que là, effectivement, eux et nous, les citoyens, auront du poids dans les politiques.
Et donc, à Morlaix-Communauté, qu'est-ce que vous faites je sais que vous travaillez un peu sur certaines façons de faire pour préserver la biodiversité, notamment dans les ZAC. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu?
Moi, ce que je vois, ce qui a changé depuis peu, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que quand on crée de nouvelles zones, alors des zones communautaires dont l'agglo a la maîtrise d'ouvrage, dont l'étude est portée par notre service travaux, c'est que la conception se fait en commun, quoi. Moi, je propose des choses ou des aménagements en faveur de la trame verte et bleue ou de la biodiversité en général, quoi. Ou même pour faire un entretien, enfin, pour la gestion différenciée des espaces verts, des choses comme ça, quoi. Voilà, c'est en travaillant en commun qu'on arrive à faire des nouvelles choses qui soient cohérentes, quoi.
Et du coup, vous faites quoi comme type d'action? Tu viens de parler de gestion différenciée des espaces verts. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou est-ce qu'il y a d'autres choses?
Bah, là, on parlait de pâturage et toutes les choses comme ça, et puis gérer les espaces un peu différemment. Des espaces qui sont pas forcément vitrines, voilà, nous on les gère en fauche, en prairie de fauche. Bon, après l'utilisation de phyto, hein, nous on n'utilise plus de phyto, pas un gramme depuis des années. Ça passe par des techniques de désherbage alternatives, hein. Du thermique, du manuel, du mécanique. Et aussi, alors au-delà des techniques de gestion, on évalue l'impact de ces techniques. Là on a une zone expérimentale. Et on est en train de faire une étude entre l'impact d'une zone gérée en tonte classique, gérée en pâturage et gérée en fauche, et sur la base de la diversité floristique, autant sur le type d'espèce que le nombre d'individus. Pareil pour l'entomophone, on va comparer en fait quels sont les résultats par rapport au type de gestion. Et si tu veux, moi derrière, ça me permettra d'avoir une base solide scientifique pour prouver ben voilà, ce type de gestion entraîne ça.
Et en matière de planification, ce qui est en cours aussi, donc c'est l'outil plan local d'urbanisme intercommunal. Donc là, je ne peux pas être définitif sur ce que je vais te dire, mais les pistes qui sont à présenter, c'est par exemple donc sur les réservoirs écologiques ou les corridors écologiques, il y aura un règlement spécifique et très strict qui interdira la construction, voilà, les constructions, les bâtiments, l'artificialisation. Ça, c'est la base. Mais ensuite, on part aussi vers une modération de la consommation d'espace. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait en fait consommer 50% de moins d'espace pour l'habitat, peut-être 30% d'espace en moins aussi pour l'économie. Donc tout ça, en fait, ça permet automatiquement de préserver les terres naturelles et agricoles. Moins consommer d'espace, ça va dans le sens de la préservation des espaces, dans le sens de la trame verte et bleue.
Pour terminer, peut-être une question sur plus une ouverture. Quel lien il existe entre la trame verte et bleue urbaine et la trame verte et bleue rurale qui l'entoure? Et dans quelle mesure les plans d'urbanisme ou l'aménagement va contribuer à faire ce lien?
Alors au-delà de l'urbanisme, et si on prend l'intérêt de la trame verte et bleue, c'était surtout pour un intérêt faunistique et floristique. Donc l'animal, lui, il va pas se dire « Ah, je suis à la campagne, je vais pas aller en ville ». On a de nombreuses espèces animales, prenons l'exemple des hirondelles ou des chauves-souris. C'est des animaux qui ont besoin de vivre en ville, ils sont proches de l'être humain, puisque certaines espèces vont vivre au niveau du bâti. Mais elles vont avoir besoin d'aller se nourrir. Une hirondelle, elle ne va pas se cantonner au niveau de la ville, elle va devoir pouvoir se déplacer. Donc il faut que ce déplacement puisse se faire en toute sécurité, entre guillemets, comme un être humain. Et donc cette trame, elle est importante pour qu'elle puisse ne pas se retrouver face à un obstacle ou quelque chose qui va l'empêcher de pouvoir se déplacer de son lieu de reproduction à son lieu de nourriture. Et si on prend en plus les chauves-souris, là, elles ont un troisième lieu à prendre en compte, c'est un petit peu le lieu de rencontre. Il faut savoir que les chauves-souris ont un troisième endroit pour se rencontrer. Donc la chauve-souris, elle doit pouvoir se déplacer en toute sécurité au niveau de ces espaces. Donc nous, en termes d'aménagement urbain, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas venir, par exemple, lui mettre une route en plein milieu de son tracé. Pour ça, ça impose aussi aux collectivités de connaître de mieux en mieux leur biodiversité sur leur territoire, d'où l'État nous demande de plus en plus de faire ce qu'on appelle des atlas de la biodiversité. Donc Alger, c'est un projet à moyen terme, on ne l'a pas encore mis en place, mais on essaye petit à petit de connecter au mieux, et en tout cas, à chaque fois qu'on a un projet d'aménagement urbain, ça fait partie des volets qu'on étudie dans le cadre du développement durable, donc volet écologique, et puis de volet économique et social. Donc dans le volet écologique, on va regarder un petit peu quelle espèce on peut avoir et comment on peut intégrer notre aménagement et prendre en compte ces espèces.
Évidemment qu'il y a des liens, puisque quand on définit des trames vertes et bleues à l'échelle d'une commune, on n'a pas la même lisibilité qu'à l'échelle d'un territoire beaucoup plus grand, quoi. Mm-hmm. Et l'idée, effectivement, c'est maintenant d'aller plus loin pour, en gros, voir ce qu'on peut faire pour connecter tout ce qui est trame verte urbaine à la trame verte plus globale. Et là, on entre dans le programme d'action.
Et le lien après avec le rural ou le futur urbain, c'est justement l'intégration de ces concepts de préservation des espaces naturels dans les projets d'aménagement. Là, on fait le lien, sur le coup, pas avec rural-urbain, mais rural et futur-urbain.
D'accord. Voilà. Du coup, pour le futur, c'est déjà plus cadré que ce qui est plus dur à mettre en place sur ce qui existe déjà.
Oui, si on prend un exemple... Naturellement, il y a un lien entre la trame verte et bleue rurale et urbaine. C'est-à-dire qu'une rivière, elle continuera à couler, sauf qu'elle finira par être buzée si elle passe au milieu de Morlaix, par exemple. C'est beaucoup plus difficile de renaturer en fait, un centre-ville, notamment une rivière qui a été buzée, que de travailler sur des futurs espaces où là, effectivement, on aura vraiment la main mise sur l'aménagement. Mais après... ça reste vraiment des pistes à explorer, justement, cette renaturation en centre-ville. Il y a beaucoup de gens qui rêvent à Morlaix de voir la rivière réapparaître au centre-ville, quasiment jusque la mairie.
Oui.
Et ce sont des choses qui, moi j'en suis persuadé, ce sont des dossiers qui reviendront sur la table et qui finiront par exister, puisque il ne faut pas oublier que souvent on parle d'attractivité. Pour les territoires, c'est très important. Les élus, on parle beaucoup d'attractivité parce qu'il y a une compétition territoriale. Mais il n'y a pas que l'économie ou alors la qualité de l'habitat. Avoir un accès à une nature préservée ou des paysages de qualité, en tout cas pour Morlaix, ça fait partie de l'attractivité. Et améliorer tout ça, ça ira dans le sens justement du projet des élus.
On a parlé d'aménagement surtout au niveau des espaces verts. Mais il existe aussi des aménagements liés à la trame bleue et notamment à la gestion des eaux de pluie. Par exemple, une gestion et un aménagement raisonné des fossés et de l'imperméabilisation des sols peuvent être à la fois bénéfiques pour la trame bleue mais aussi contre les inondations.
Au niveau des plans locaux d'urbanisme, maintenant on interdit notamment l'usage des fossés en campagne. Et ça peut... Les habitants des fois le vivent mal parce qu'ils ne peuvent pas avoir un fossé... Fossiles est moins taillé que faut pas désherber facilement. Mais si on fait ça, c'était justement pour que l'eau puisse circuler plus facilement et limiter les risques d'inondation. Et donc, il faut vraiment se dire, quand on gère l'eau pluviale chez soi, l'eau de sa toiture, elle va bien arriver quelque part. Et quand on pense à aménager son jardin, si on fait une terrasse, si on fait une terrasse en béton, on va imperméabiliser une surface. Donc, ça fait de l'eau qu'il va falloir capter encore plus dans les circuits de la ville. Alors que pareil, dans ces choix d'aménagement, on peut peut-être partir sur des choses qui permettent à l'eau de rentrer dans le sol et éviter d'imperméabiliser de plus en plus de surface en ville et limiter à terme les risques d'inondations dans les villes. C'est déjà arrivé à Guerre qu'on ait des inondations en plein centre. Et c'est problématique, mais on ne pourra pas à terme continuer d'augmenter la taille des tuyaux pour récupérer l'eau pluviale en continu tout le temps. Donc nous, dans nos nouveaux aménagements, on prévoit des nous, en fait, on essaye de gérer l'eau au plus proche pour qu'elle ne parte pas dans les réseaux, mais chacun chez soi peut aussi intégrer cette gestion, soit en faisant une petite mare.
Et qu'est-ce que c'est qu'une noue ?
Alors une noue, c'est tout bêtement un fossé dans lequel on va laisser l'eau stagner pour qu'elle s'évacue et qu'elle prenne le temps de rentrer dans le sol plutôt que de couler très vite vers la rivière. Et ça évite que l'eau vienne très très vite quand il pleut et se retrouve à faire déborder la rivière. Ou les fossés qui sont avant, là elle va prendre le temps de rentrer dans le sol et du coup on limite les grands crues. Même si on est moins concerné sur une ville comme nous, c'est déjà arrivé des dernières années.
La prochaine émission sera consacrée à la trame bleue et nous traiterons plus spécifiquement ce sujet. Et maintenant, une petite pause musicale avec Hit Down the Road de Shake.
I like to hit down the road with you. I like to scoot up the road for you. If you you like to share up the ride? I'm gonna eat down the road. We're gonna eat down the road with you. I'd like to eat down the road with you. I'd like to light up the road for you. I'm gonna share up a ride with you. We're gonna light up the road for you. I had a dream on the way home. I had a dream. Mama, would you scoot down the road with me? I'd like to light up the road for you. If you'd like to share up the ride with me, I'm gonna light up the road for you. I had a dream on the way home. I had a dream.
On a vu que les particuliers avaient du poids en votant pour des politiques en faveur de la préservation de la biodiversité. Mais finalement, est-ce que chacun peut agir au quotidien dans son jardin ? J'ai posé la question à Emmanuelle Scherer-Martin, directrice des services techniques de la ville de Guéret.
Quelle compatibilité existe entre la trame urbaine, donc qui s'exprime dans les documents d'urbanisme, et les usages de chacun ? Enfin, comment chacun peut participer à la mise en œuvre de cette trame chez lui, sur son espace privé, mais à l'intérieur de la ville ?
Alors, au niveau de la vie, on va dire, comme on expliquait tout à l'heure, l'espèce animale, elle ne va pas se cantonner à se dire « je vais rester, par exemple, dans le parc que la ville a aménagé avec mon hôtel à insectes, et puis tout ce qui va bien, et un joli massif de fleurs ». Donc, on est tous plus ou moins responsables de la biodiversité en France, j'estime, donc, notamment dans nos villes. Donc, ce qui est important, c'est quand on aménage chez soi, c'est d'essayer d'être cohérent avec ce qu'il y a autour. Donc, ça peut passer par des gestes simples, notamment plutôt choisir des espèces locales et non invasives. Si vous installez, à l'époque, il y a eu beaucoup de renouées du Japon installées dans les jardins. Et aujourd'hui, c'est une plante qu'on considère comme invasive, qui s'installe partout et qui vient des jardins. Où on a l'exemple dans la côte du Bacaris, où les gens ont installé cette plante parce qu'elle était jolie dans leur jardin, et maintenant elle envahit tous les espaces naturels et les espaces verts des villes, et on est obligé de mettre en place des actions. Donc c'est déjà essayer de réfléchir quand on plante, est-ce que cette plante elle est adaptée, est-ce qu'elle va être utile pour la faune et la flore autour de chez moi, et est-ce qu'elle ne présente pas un risque à court ou moyen terme aux espèces qui sont autour. Après, dans les autres petits gestes qu'on peut avoir faire, quelque chose qui n'est pas très difficile, c'est par exemple quand j'installe une clôture autour de chez moi. On installe de plus en plus tous des clôtures fixes pour être tranquille et bien dans son espace, mais il faut savoir que le hérisson, par exemple, si la clôture elle est trop petite, il ne pourra pas passer dans votre jardin. Et vous, si vous voulez faire du jardinage chez vous, c'est intéressant d'avoir un hérisson qui passe, notamment pour manger les limaces ou les escargots. Donc du coup, bah, vous avez mis votre clôture, mais vous n'avez pas pensé au fait que l'espèce ne pourrait pas rentrer, donc peut-être aménager un petit espace justement pour que le hérisson puisse passer à cet endroit-là ou un autre espèce animale que vous voulez voir chez vous. Et de manière générale, voilà, c'est d'essayer de réfléchir à comment je peux aménager pour que la nature puisse s'installer. Et l'autre aspect que je voudrais vraiment insister, c'est aussi commencer à accepter que cette nature revienne en ville. Et ça passe notamment par accepter que le trottoir devant chez moi ne soit pas toujours désherbé, nickel, impeccable. Parce qu'il faut savoir que les villes, elles n'utilisent plus de produits phytosanitaires. Et tant mieux pour la nature et les eaux. Mais maintenant, ça passe aussi par le fait que on aura plus de pissenlits, etc. Donc ça peut être visuellement dérangeant pour certaines personnes, mais il faut savoir que le pissenlit, quand il est en fleur, il sert pour les abeilles et les bourdons quand ils arrivent. Et ces graines vont aussi servir de nourriture à d'autres espèces animales. Donc il faut essayer d'apprendre à accepter ces espèces qu'on considérait comme indésirables dans nos jardins, parce qu'elles ont leur utilité.
Pour finir cette émission, c'est l'heure de notre jeu. C'est l'heure du mini-jeu. Qu'est-ce que c'est que cet animal ? Sur la dernière émission, nous avons entendu le brame du cerf. Saurez-vous retrouver l'animal de cette émission ? C'est la fin de cette émission Radio TVB. Merci à Emmanuel Scherrer-Martin, Benjamin Urien et Tristan Le Baron d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci aussi à Gwen, toujours fidèle reportrice de l'activité des animaux. Un grand merci à Timbre FM pour leur soutien. À très bientôt pour une nouvelle émission Radio TVB.